Chapitre 45. Dans la cabane qu'Outreau s'appelait le mitard, Bannon, toujours en compagnie de Brock et de Jed, écoutait le lointain roulement, au pied d'île Dakar. Même si la muraille et la porte résistaient, les habitants finiraient par devenir dingues à ce régime. En prison et virtuellement condamné à mort, Bannon avait d'autres soucis en tête.
« Quand vont-ils nous tuer ?» demanda Jed. « Moi, je m'étonne qu'ils ne nous aient pas encore torturés. » « Tu es si pressé que ça, abruti !»
explosa Brock. Recroquevillé contre la paroi de bois, il semblait proche du point de rupture.
« Mais ils feront durer le plaisir, j'en ai peur !»
continua Jed.
« Pour l'exemple, j'imagine, en nous découpant en morceaux devant la porte d'île Dakar, histoire que tout le monde jouisse du spectacle. « Mon père a eu tort de me forcer à combattre !»
grogna Brock.
« Je ne suis pas un fichu fantassin, mais un noble !»« Non, un prisonnier !»
corrigea Bannon.
« Du coup, au lieu de te lamenter sur ta fin prochaine, tu ferais mieux de réfléchir à un moyen de nous évader. »« Nous évader ?»
s'écria Brock.
« Moins fort ! Tu veux que les soldats t'entendent ?»
Le jeune noble ne baissa pas le ton.
« Quels soldats ? Ceux qui grouillent dehors comme des cafards ? On s'en fiche qu'ils nous entendent. De toute façon, on n'aurait pas une chance de traverser leur ligne. »« Trouve une idée qui n'implique pas de se battre. »
Collant le visage contre la paroi, Bannon jeta un coup d'œil dehors. En fin d'après-midi, le soleil avait déjà sombré derrière les montagnes.
« Tu ne préfères pas mourir en fuyant plutôt qu'être démembré pour l'exemple ? Tu te rappelles combien tu aurais aimé me voir crever devant un public pour te distraire ? Mais tout ça, c'est terminé. »
Bannon se tourna vers ses deux compagnons d'infortune.
« Je n'ai jamais été votre esclave. Pourtant, vous m'avez laissé croupir dans les fosses de combat. Mais aujourd'hui, je suis libre. »
Bannon cogna contre la cloison qui grinça sinistrement.
« Même ici, je suis libre. Si vous voulez l'être aussi, pensez à une façon de nous sortir de ce piège. »
De la pure rhétorique. Jed et Brock ne feraient rien, c'était couru. Tout reposerait sur lui. Outros devait prévoir de les conduire au pied de la ville, puis de menacer de les exécuter si elles ne se rendaient pas. Malgré leur haute naissance, Jed et Brock n'étaient pas importants à ce point. Et même pour sauver Bannon, Nietzsche et Nathan n'iraient jamais jusqu'à sacrifier île Dakar.
« On va devoir sortir d'ici, les gars !»
Jed et Brock n'étaient toujours pas les amis du jeune escrimeur, moins que jamais, depuis qu'il les connaissait mieux. Mais ils n'étaient pas comme eux. Ces deux jeunes types avaient combattu avec lui et ils partageaient son triste sort. Pas question de les abandonner. Collant de nouveau son œil à la fissure, Bannon tenta de voir ce qui se passait dans le camp à la tombée de la nuit. Autour des feux, des frères d'armes se rassemblaient. Comme tous les soldats en campagne, ils bavarderaient et feraient assaut de vantardise. Déjà, certains chantaient alors que d'autres jouaient au dé. Avec leur écrasante supériorité numérique, ces hommes ne se souciaient pas beaucoup de leurs prisonniers. Pour s'évader dans ces conditions, il aurait fallu être fou. Eh bien, Bannon allait se comporter comme un cinglé. Quel choix avait-il? Sans cesser de regarder dehors, il se creusa la cervelle et sursauta soudain quand il aperçut loin des feux une silhouette ô combien familière. Mara! Oui, c'était bien elle! Deux antiques guerriers passèrent devant la cabane, obstruant le champ de vision du jeune escrimeur. Quand ils se furent éloignés, la panthère n'était plus en vue.
Mara! Souffla-t-il. C'est moi! Je suis ici!
Même s'il ne voyait pas trop comment elle aurait pu l'aider, savoir Mara dans les environs regonfla le moral de Bannon. Du coup, il secoua les planches, histoire d'éprouver leur solidité. Construit à la va-vite, ce mitard tenait debout par miracle. En insistant un peu, Bannon parvint à glisser les doigts entre deux planches. Quand il tira, il se planta des échardes dans la chair, mais ça ne l'empêcha pas d'insister. Bien entendu, les deux nobles ne firent pas mine de l'aider.
« Avant de nous tuer, gémit Jed, ils nous interrogeront sûrement. Le général voudra apprendre tout ce que nous savons sur île Dakar. » « De moi, il ne tirera rien !»
s'écria Brock. Bannon continua à s'escrimer sur les planches qui commençaient à céder.
« C'est faux !» dit Jed. « Et tu le sais, quand ils t'auront brisé les coudes et les genoux, puis arraché les ongles avec des pinces, tu parleras. T'as vu les magiciennes? Imagine qu'elles fassent fondre tes doigts l'un après l'autre !»
Brock eut un sanglot étouffé. Les dents serrées, Bannon secoua de plus en plus fort la planche qu'il avait décellée. Malgré leur pleutrerie, il aurait demandé de l'aide aux deux gandins, mais il n'y avait pas assez de place pour travailler à plusieurs. Quand le bois craqua, le jeune escrimeur se pétrifia. Mais rien ne se passa, sans doute parce que les soldats avaient la tête ailleurs. Par un orifice plus grand, Bannon put mieux observer le camp. Effectivement, personne ne surveillait la cabane. Le feu de camp le plus proche était à une centaine de pas de là, juste à la lisière des ombres où Mra avait dû s'enfoncer. S'il réussissait à sortir sans se faire remarquer, les trois prisonniers auraient une bonne chance d'imiter la panthère. Les soldats encore pétrifiés ayant une mauvaise vision nocturne, la côte n'était pas si défavorable. Bien entendu, avec Solid, elle aurait été meilleure, mais on ne pouvait pas tout demander. De plus, une chance infime valait mieux que pas de chance du tout. Quand Bannon tira dessus, la planche craqua encore, plus fort cette fois. Mais sous les rayons de lune, le camp semblait comme assoupi. Maudit astre nocturne. Une lumière malvenue, vraiment, pour des fugitifs. Au moins, la planche n'était plus un obstacle. D'un coup d'épaule, Bannon pourrait la déloger puis se glisser dehors, mais il ne fallait rien précipiter.
« On attend jusqu'à minuit puis on file. »« On se fera prendre !»
grogna Jed.
« Et tuer !»«
Dans ce cas, restez ici et faites-vous tuer quand même. J'essaie de vous aider. »«
Douce mère la mère, il vous est arrivé de prendre vos responsabilités une fois en 15 siècles ?»
Vexés, les deux poltrons ne répondirent pas. Au fil des heures, l'assoupissement du camp se confirma. Toujours debout, car il semblait ne pas avoir besoin de dormir, les soldats évoluaient pourtant au ralenti. Avec un peu de chance, les sentinelles seraient moins vigilantes. Guettant son heure, Bannon scruta les ombres en quête de Mra, car la voir lui aurait mis du cœur au ventre. Apercevant une silhouette furtive, il plissa les yeux et reconnut une femme, vêtue de soie sombre, qui se faufilait vers la cabane. Sans un bruit, Bannon tira sur la planche pour élargir le trou. Quand elle eut atteint la cabane, l'inconnue abaissa sa capuche.
« Lila !»
souffla Bannon. Une épée courte dans la main gauche et une lame normale dans la droite, la Morassite brandit fièrement cette dernière.
Solide. Elle avait retrouvé Solide. Un miracle encourageant ça. « Suis-moi, mon gars. Je vais te sortir d'ici. »
Bannon arracha la planche de son logement comme il l'eût fait avec une dent pourrie, puis il se tourna vers ses compagnons.
« Venez, on peut filer !»«
T'es cinglé, paysan !»
lança Jed. Brock se leva d'un bond.
« Moi, je veux bien tenter le coup !»
dit-il. Quand il se fut engagé dans l'orifice, Lila prit Bannon par le bras et l'aida à s'extraire de la cabane, puis elle lui rendit son arme.
« Je l'ai trouvée sur un tas de débris à l'extérieur du camp. Je me suis dit que tu aimerais la voir. »
Quand il saisit la poignée enveloppée de cuir, Bannon frissonna d'excitation.
« Merci !»
Plus gros que le jeune escrimeur, Brock eut du mal à sortir et il fit craquer le bois. Tirant sur une planche qui se brisa, Jed lui facilita la tâche mais au risque d'alerter les antiques soldats.
« Il faut filer !»
souffla Lila. Quand Jed eut réussi à sortir, la Morassite courait déjà plusieurs pas devant.
« Vite !»
ordonna Bannon en la suivant. Avec sa tenue de camouflage magique, il ne voyait déjà presque plus Lila. Dans son dos, Jed et Brock couraient en respirant comme des soufflets de forge. Des cris retentirent dans le camp.
« Des prisonniers sont échappés !»
Approchant des feux, des soldats récupérèrent leurs armes et embrasèrent des torches. Puis ils partirent au pas de course, produisant un boucan infernal. Trois colosses se campèrent sur le chemin des fugitifs. D'un coup de pied sauté à la poitrine, Lila fit basculer le premier dans la poussière, mais d'autres cris retentirent dans la nuit et des renforts accoururent. Comme de juste, les deux idiots paniquèrent.
« Ils vont nous avoir !»
cria Brock.
« Séparons-nous, chacun pour soi !»«
Non, on doit rester groupés !»
rugit Bannon.
« Suivez Lila !»
Comme s'ils étaient sourds, les nobliaux partirent dans des directions opposées. Restant dans le sillage de la Morassite, Bannon se prépara à vendre chèrement sa peau. Les yeux baissés sur Solide, il vit que la lame portait les stigmates du combat de la veille. De ces épisodes de folie guerrière, il ne gardait aucun souvenir, mais à l'évidence, il avait fait un carnage. Eh bien, il allait devoir recommencer. Après s'être débarrassé des deux autres soldats, Lila enleva son manteau spécial pour avoir une plus grande liberté de mouvement.
« Viens près de moi, mon gars. Montre que tu as bien retenu mes leçons. » « Mais Jed et Brock, ils sont fichus. Ce combat, il est pour nous deux. »
Une haie de soldats leur barrait le chemin. Pour passer, il allait falloir tailler dedans. En cas d'échec, Bannon serait repris, mais cette fois, Outros aurait Lila en prime. Une longue silhouette jaillit dans la nuit. Renversant deux soudards d'un coup, Mara entreprit de les déchiqueter à coups de griffes et de crocs, puis elle passa de nouvelles victimes. Tirant parti de cette diversion, Lila tailla en pièces un soldat. Ses forces décuplées par la rage, elle semblait n'avoir aucun mal à trancher comme du beurre la chair pourtant dure de ses adversaires. Encouragée, Bannon fit subir le même sort à un autre soudard. Avec les victimes de Mara, ça commençait à faire une belle brèche.
« Cours, mon gars !»
cria Lila en détalant comme un lapin. Pendant que Mra retardait leur poursuivant, la Moracide s'enfonça dans les collines et Bannon la suivit, fonçant plus vite que jamais dans sa chienne de vie. Après avoir ouvert la gorge d'un dernier soldat, Mra leur emboîta le pas. Même s'il pensait sans cesse à Jed et à Brock, piégés en arrière, Bannon ne se retourna pas une seule fois. Avec un peu de chance, les deux nobles s'en sortiraient. Sinon...
« Direction le mur d'enceinte !»
cria Lila.
« On passera par une poterne que je connais !»
Trop occupé à courir, Bannon ne répondit pas. La course n'étant sûrement pas un point fort des soldats à demi pétrifiés, les fugitifs mirent rapidement une bonne distance entre eux et la meute qui les suivait. Quand il apparut qu'ils ne seraient pas rattrapés, Mara partit de son côté en direction des collines où elle se cacherait. Ralentissant un peu, Lila se tourna vers Bannon.
« Ravi de t'avoir retrouvé entier, mon gars. Ta mort m'aurait beaucoup déçu.
Et moi donc ?»
renchérit le jeune escrimeur. Soulagé au-delà du disciple, il ne rappela même pas à sa compagne qu'il détestait qu'elle lui donne du « mon gars ». Quand le calme fut en partie revenu, Outros apprit qu'un des prisonniers avait réussi à s'enfuir. Les deux autres, en revanche, avaient été repris. Navré d'avoir perdu le brillant jeune escrimeur, le général se concentra néanmoins sur le rapport d'Enoch.
« On les a aidés, général. Quelqu'un s'est introduit dans le camp pour leur prêter main forte. J'ai vu aussi une panthère, »
dit un soldat. Sa cuirasse abîmée, il avait un bras couvert de griffures.
« Un des fauves de combat de la reine d'Ildakar. »
Outros ne fut pas le moins du monde impressionné.
« Et une armée entière n'a pas pu arrêter un félin et deux humains ?»
Sur ces mots, il ordonna qu'on amène les prisonniers devant lui. Couverts de sang, les poignets brisés, délibérément pour les neutraliser, les deux nobles étaient passés du stade d'épave à celui de rebut de l'humanité. Leurs belles soieries souillées de soie, ils empestaient l'urine, car ils s'étaient pissés dessus de terreur. Les yeux ronds, ils regardaient leurs mains désormais inutiles pendre au bout de leurs bras.
« On se rend !»
dit le nommé Brock.
« Et on ne tentera plus de fuir !»«
Le problème, mon garçon !»
fit Outros.
« C'est que vous êtes sans valeur pour moi, et ici nous n'avons pas de quoi vous nourrir. Mais soudain je vous vois une forme d'utilité. Que diriez-vous de servir la justice en payant pour vos crimes? Les statues que vous mutiliez, vous vous souvenez ?»
Les deux condamnés frémirent.
« Quand nous étions incapables de nous défendre, vous étiez si courageux. Avez-vous seulement conscience de l'horreur de vos crimes ? « Savez-vous dans quel état sont des dizaines de mes hommes? Ce que vous avez fait, c'est le mal absolu !»
Sur un geste d'Outros, des éclopés avancèrent, certains aidés par des camarades et d'autres portés sur des civières. En découvrant ces pauvres gueules cassées, Jed et Brock écarquillèrent les yeux. En plus de leurs membres brisés, ces malheureux, en guise de visage, arboraient des plaies ouvertes, une infâme bouillie sur laquelle on distinguait à peine les yeux, le nez et la bouche.
« Non !»
cria Jed.
« Si, c'est bel et bien votre œuvre. Et ces malheureux, s'ils n'ont plus figure humaine, restent mes soldats et mes fils. Comme avant, ils brûlent d'envie de combattre. »
Outros balaya du regard les deux prisonniers, le plus lâche Brock s'oubliait de nouveau sous lui.
« Vous êtes sans défense comme eux quand vous les massacriez. Eh bien, à leur tour maintenant. Mes enfants, ces chiens sont à vous. »
Les autres soldats formèrent un cercle autour des deux prisonniers et du groupe de vengeurs. Alors les gueules cassées montrèrent qu'elles en connaissaient un rayon en matière de mutilation.